France Inter.
Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous. Avant celle des athlètes, d'autres épreuves attendent parisiens et visiteurs à l'approche des JO. QR code obligatoire pour des dizaines de milliers d'habitants avant même la cérémonie d'ouverture. On fait le point ce matin sur les dernières annonces du ministre de l'Intérieur. Nous partirons aussi en Seine-Saint-Denis où les médias étrangers affluent déjà. Dans ce journal également, un champ de ruines à Gaza. Les habitants de Khan Younes retrouvent leur maison, ou plutôt ce qu'il en reste. En Nouvelle-Calédonie, l'industrie du nickel risque de faire plonger toute l'économie. Et à 2 mois des européennes, des jeunes venus de tout le continent jouent aux diplomates à Bruxelles.
Un petit mot de l'invité d'Alexandra Ben Saïd, l'essayiste Pascal Bruckner, dans ce studio dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la Seine reste donc une bonne idée.
Malgré la menace terroriste, Gérald Darmanin en est persuadé. Et la meilleure preuve pour lui, c'est qu'aucune délégation étrangère n'a refusé de défiler le 26 juillet. Ça se fera pour autant au prix d'une sécurisation maximale. Le ministre de l'Intérieur en dit plus ce matin dans les colonnes du Parisien. Dès la semaine précédant la cérémonie, les quartiers parisiens bordant la Seine seront bouclés et leur quotidien chamboulé. Riverains, livreurs, invités, des dizaines de milliers de personnes devront montrer un laissez-passer. Et pour cela, Jean-Pierre Blimeau, il faudra s'inscrire sur une plateforme en ligne dès le mois prochain.
À partir du 10 mai, tous ceux qui seront amenés à entrer dans cette zone protégée pourront commencer à s'inscrire sur cette plateforme. Gérald Darmanin précise que cette démarche sera obligatoire. Une fois inscrites gratuitement, les personnes qui passeront l'étape du contrôle de sécurité recevront un QR code, condition nécessaire pour entrer dans les espaces concernés environ une semaine avant la cérémonie du 26 juillet. Si vous ne vous êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas rentrer, prévient le ministre de l'Intérieur, qui précise également que, piéton ou non piéton, chaque personne devra présenter son laissez-passer et une pièce d'identité, mais qu'une fois dans le périmètre, la liberté sera totale. Gérald Darmanin ajoute qu'il n'y aura pas de quota, que le nombre de personnes pouvant obtenir un QR code ne sera pas limité. Le ministre espère tout de même que les habitants ne seront pas trop nombreux sur les balcons ou sur les péniches, mais qu'il ne sera pas question de faire la police des balcons.
Et après la cérémonie, la carte des restrictions de circulation pour l'ensemble de la quinzaine olympique est disponible sur le site anticiperlesjeux.gouv.fr. La Seine-Saint-Denis sera au cœur de l'événement en accueillant plusieurs épreuves, mais aussi le village olympique. Et dès maintenant, le département y gagne en exposition médiatique à l'étranger. Des journalistes du monde entier viennent voir comment certains quartiers se transforment. Reportage à Tremblay, signé Laurent Kramer.
Avec les Jeux olympiques, des dizaines de médias venus de l'étranger arpentent la Seine-Saint-Denis.
Ah oui, ça fait plaisir d'avoir des médias, parce qu'on même des médias français, pratiquement, on n'en a jamais eu.
Hakim Benjebour est le directeur de la piscine municipale de Tremblay, où une équipe de télévision allemande de l'ARD tourne un 45 minutes sur le département.
Ça nous fait plaisir qu'en Allemagne, on puisse donner une autre image, une image positive de la Seine-Saint-Denis.
Et ce documentaire est l'occasion de faire découvrir la Seine-Saint-Denis autrement, confirme Sabine Rau. Elle est la directrice des studios parisiens de la chaîne allemande.
L'image des banlieues, chez nous en Allemagne, des banlieues parisiennes, c'est plutôt négatif. Donc oui, les Jeux peuvent changer l'image de la banlieue.
The Seine-Saint-Denis department is known as the poorest in France.
Alors que le monde entier aura les yeux braqués sur la Seine-Saint-Denis, ces JO sont l'occasion de réparer une injustice, souligne Patrick Martin, il est l'adjoint au sport à la mairie de Tremblay.
Ce qui est attachant avec ce département-là, c'est le savoir-faire des uns et des autres qui n'est jamais mis en valeur véritablement. Et le fait que la presse nationale et internationale s'intéresse à ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, avec tous les reportages qui auront lieu, tout ce qui aura été dit sur la Seine-Saint-Denis, on verra que l'image qu'on donne de la Seine-Saint-Denis est changée.
Et que ce changement d'image fasse partie de l'héritage des Jeux Olympiques pour de nombreuses années, espèrent les élus de Seine-Saint-Denis.
On évoquait à l'instant la menace sécuritaire, plane aussi sur ces Jeux au cœur de l'été, le risque d'une canicule. L'Institut européen Copernicus révèle ce matin que mars a été le 10e mois consécutif à battre un record de chaleur au niveau mondial. Sur un an, on dépasse le degré et demi supplémentaire par rapport à l'ère pré-industrielle. Une nouvelle affaire MeToo dans le cinéma français. Révélation ce matin de la cellule investigation de Radio France. Le réalisateur Philippe Lioret, à qui l'on doit notamment les films « Je vais bien, ne t'en fais pas » ou Welcome, est accusé par plusieurs actrices de gestes déplacés lors d'un casting en 2010. Vous entendrez leur témoignage dans le journal de 8h. C'est aussi à lire dès maintenant sur l'appli et le site d'Inter.
Emmanuel Macron, le roi Abdallah de Jordanie et le président égyptien Sissi unissent leurs voix
pour réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération des otages. Les trois dirigeants le disent ce matin dans une tribune commune. Mais on en est encore loin. Le premier ministre israélien affirme même qu'une date est désormais fixée pour une opération à Rafah. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que l'armée israélienne s'est retirée ce week-end d'une autre localité de Gaza, Ran Younes. Certains habitants en profitent pour tenter de rentrer chez eux, mais ils découvrent sur place un tas de ruines. Témoignage recueilli par notre correspondante Alice Froussard.
Les rues ont été rasées au bulldozer, tout est méconnaissable. Partout, des nuages de poussière et une odeur de mort, car certains corps sont encore sous les décombres. Voilà ce que décrit Yasmine, une habitante de Ran Younes.
Que dire de plus ? Il n'y a pas une maison sans martyrs, sans blessés ou sans destruction. Aucun mot ne peut décrire ce que l'on ressent.
Comme elle, de nombreux Gazaouis espéraient retrouver leur maison, même détruite. C'est mieux que vivre dans une tente à Rafah, dit-elle. Mais pour beaucoup, il ne reste qu'un gigantesque tas de gravats. Yasser et sa famille n'ont plus rien.
Un missile l'a visé juste avant qu'on ne parte. On était 16 à y vivre. Mais la maison était encore debout. Là, elle est complètement détruite.
D'autres ont surtout de mauvaises surprises, comme Mohamed.
Quand on est parti de chez nous, la maison était intacte. Là, on est revenu et l'armée israélienne a laissé des explosifs à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Et si c'est dangereux ou pas, ni comment. On doit les manipuler.
C'est le sentiment partagé chez tous ces habitants de Ran Younes. Nous ne nous attendions pas à un tel niveau de destruction, précise-t-il, avant d'ajouter. Nous venions seulement chercher quelques habits, un toit et un peu de réconfort en retrouvant nos affaires.
Alice Froussard au Proche-Orient. Je ne suis pas responsable. Le procès des Panama Papers s'est ouvert hier au Panama et l'un des principaux prévenus, dirigeant du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, a donc nié toute faute. 8 ans après l'éclatement de ce scandale mondial d'évasion fiscale, 11 millions de documents avaient fuité en 2016 impliquant des dirigeants politiques, des personnalités du sport, de la finance, des arts. En France, cette affaire a contribué à lancer des dizaines de procès judiciaire. Alors où en est-on aujourd'hui, Emmanuel Leclerc ? 196 millions d'euros de redressement fiscal.
Le cap des 200 millions d'euros n'a pas été franchi ces dernières semaines comme espéré par les services de Bercy, mais ça ne saurait tarder car une majorité des 600 dossiers instruits n'a en réalité pas encore pu être traité. La faute à certaines demandes d'entraide qui traînent dans certains paradis fiscaux, mais il y a eu aussi 29 procédures judiciaires conduites par le parquet national financier qui ont mené les enquêtes dans les îles Vierges britanniques, au Delaware, aux États-Unis ou encore au Luxembourg, pour tenter de remonter les sociétés gigognes qui permettaient jusque-là de cacher des milliards d'euros d'avoirs qui échappaient à l'impôt. 17 dossiers ont été classés sans suite malgré tout, mais les enquêteurs ont réussi à coincer de très gros fraudeurs qui ont plaidé coupables, comme Maurice Herman, l'ancien PDG d'un groupe de cliniques privées, avec à chaque fois des amendes pénales salées et des confiscations. La procédure la plus médiatisée de ces Panama Papers en France est à ce jour celle qui a concerné à l'automne dernier l'actrice Isabelle Adjani, condamnée à 2 ans de prison avec sursis et 250 000 euros d'amende. Ses avocats ont fait appel du jugement.
Journée décisive pour la réforme controversée de la sûreté nucléaire. L'Assemblée et le Sénat doivent se prononcer une dernière fois aujourd'hui sur ce texte qui prévoit la fusion entre les deux instances de contrôle, l'ASN et l'IRSN, au grand dam de leurs salariés. Ils ont prévu une manifestation de la dernière chance. C'est un minerai stratégique qui pourrait aider la France à devenir plus souveraine sur les batteries électriques. La filière du nickel bat sérieusement de l'aile en Nouvelle-Calédonie où elle est pourtant un poids lourd de l'économie. Les 3 usines de l'archipel viennent d'être placées en cessation de paiement, fragilisées par l'arrivée de nouveaux acteurs qui ont fait chuter les cours de 40%. Paris tente de pousser pour un plan de sauvetage. Le Congrès calédonien doit l'examiner à nouveau aujourd'hui, Mathilde Dehimi.
Il y a urgence, on court à la catastrophe, conviennent tous les partis politiques et les économistes. Le marché est déstabilisé alors que le nickel représente 90% des exportations de Calédonie et un quart des emplois privés, rappelle Samuel Gorouna de l'Université de Nouméa.
Ce qui a bouleversé le secteur du nickel, c'est l'Indonésie. avec des investissements très importants de groupes internationaux, particulièrement les Chinois, et qui sont arrivés dans un pays évidemment à bas coût et avec des normes environnementales qui ne sont pas les mêmes que celles appliquées en Nouvelle-Calédonie. Et donc, une grosse production qui monte, donc les prix baissent, c'est en train de tuer les concurrents.
Les trois usines calédoniennes souffrent aussi de problèmes structurels, chacune possédant sa propre centrale électrique, fioul ou charbon, dont les coûts ont explosé. Le pacte nickel du gouvernement français prévoit de nouvelles aides de l'État, un investissement important des collectivités pour la transition, mais il n'implique pas assez les industriels. Eramet et Glencore dénoncent indépendantistes et une partie des anti-indépendantistes qui refusent de signer le texte. Si toutes les usines ferment, le système calédonien d'assurance chômage et de protection sociale risque de s'effondrer à son tour.
Il est 7h40, dans deux mois pile, les élections européennes.
Oui, le scrutin est prévu en France le 9 juin et quoi de mieux pour convaincre les jeunes d'y participer que de leur faire vivre les coulisses de Bruxelles. 160 étudiants venus des 27 États membres participent cette semaine à la simulation d'un Conseil européen. Un jeu de rôle grandeur nature. Objectif, trouver un compromis sur la régulation de l'intelligence artificielle. Et on s'y croirait, Angélique Bouin.
Cela commence comme lors des vrais sommets avec les déclarations des chefs d'État sur le grand tapis rouge bordé des 27 drapeaux. Impeccable dans son tailleur bleu marine, Lauriane, 22 ans, joue le rôle du président Macron.
Alors aujourd'hui, nous vivons un moment historique pour l'Union.
Direction l'une des vastes salles du Conseil. Autour de la table, le faux Charles Michel distribue la parole.
Thank you. I now have Susanna from Poland.
2 heures à la recherche d'un compromis. À la sortie, Lauriane se dit surprise.
C'était assez différent de ce à quoi je m'étais préparée. C'est vrai que discuter à 27, ça pose certaines difficultés. Chacun essaye de respecter son temps de parole tout en faisant valoir ses positions. Et c'est assez compliqué.
Anaïs a joué le rôle de conseillère en cybersécurité pour le Luxembourg.
On a rencontré des Lituaniens, des Suédois, beaucoup parlé avec les Allemands. On a pu découvrir d'autres points de vue.
Émilien, 22 ans, joue le ministre belge du numérique, un domaine où l'Europe donne le « là », estime-t-il, bluffé lui aussi par l'exercice.
C'est ce genre de choses qui nous montrent qu'effectivement on est tous très unis, en étant tous très différents, et nos négociations, nos deals ont un pouvoir normatif dans le reste du monde, et donc c'est assez impressionnant à observer.
Une plongée dans les coulisses des négociations à 27 qui doit durer 2 jours. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Pendant qu'au Royaume-Uni, et là on parle de vrais diplomates, le célèbre Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères, est jugé has-been, en décalage total avec un monde qui change, dans un rapport écrit par des hauts fonctionnaires. Il parle d'un sentiment de grandeur anachronique pour une puissance désormais moyenne. Les auteurs critiquent jusqu'au mur du ministère qui présente encore bien trop, selon eux, d'images de l'époque coloniale.
Merci Alexis Morel. La politique, l'économie et l'invité de 7h50 à suivre.